La part de Christ. Les souffrances et les gloires dans quelques psaumes. Par Georges André. Introduction. Un certain nombre de psaumes nous présentent tout spécialement le Seigneur Jésus, quoique beaucoup d'autres parlent de lui sous divers aspects. Après l'entretien sur le chemin d'Emmaüs, où il avait fait brûler deux cœurs, avant de quitter les siens, Jésus a souligné qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de lui dans les psaumes fussent accomplies. Il leur a alors ouvert l'intelligence pour entendre les Écritures. Luc 24, versets 32 et 44 à 45. Quelqu'un a appelé de tels psaumes le cœur du Saint-Livre. En effet, les évangiles rappellent surtout les faits de la vie du Sauveur, mais les psaumes, et particulièrement ceux que nous allons considérer, nous font entrer un peu plus dans les sentiments qu'a éprouvés dans l'intimité de son être Jésus qui a tant souffert, généralement solitaire. De tels psaumes sont très souvent cités à son sujet dans le Nouveau Testament, preuve qu'il parle bien de Christ, soit dans les discours de Pierre puis de Paul dans les Actes, et surtout dans l'Épître aux Hébreux. Mais s'il fallait que le Christ souffre ces choses, il fallait aussi qu'il entre dans sa gloire. Luc 24, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Elle suivait les souffrances, 1 Pierre 1, verset 11. Recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Certains psaumes se concentrent sur de telles gloires. Si, dans ces portions de la parole, l'Esprit de Dieu a voulu nous faire entrer en quelque mesure dans les profondeurs où l'amour du Sauveur l'a conduit, ne nous convient-il pas de les considérer avec toute révérence, sentant bien la distance qui nous sépare de ce qu'il a pu vivre lui-même? Le psaume 22, par exemple, nous parle de ces heures de ténèbres, pendant lesquels le petit groupe qui avait été précédemment au pied de la croix se tenait loin, regardant ces choses, Luc 23, verset 49. Et tous ceux de sa connaissance et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient loin, regardant ces choses. Il faut aussi veiller à ne pas dépasser ce que la parole nous présente. D'aucuns ont voulu le faire, présumant, ou supposant tel ou tel aspect qui ne nous est pas clairement révélé. Ils se sont plus d'une fois fourvoyés, comme hélas, parfois, ceux qui ont cherché à les corriger. Nul ne devait regarder dans l'arche, type de Christ, même pas la toucher, sous peine de mort. La moitié des psaumes, d'après leur suscription, ont été composés par David, le doux psalmiste d'Israël. Avec bien d'autres, ils expriment les expériences qu'ont traversées de tels hommes de Dieu. Mais, chose remarquable, l'Esprit de Dieu qui les a inspirés les a conduits souvent beaucoup plus loin que leurs propres sentiments, jusqu'à exprimer ceux du Sauveur lui-même. Aussi seul cet Esprit de vérité peut-il prendre de ce qui est à lui et nous l'annoncer. Son but n'est-il pas de le glorifier? Jean 16, verset 14. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. D'autres portions de la parole nous présentent divers types de Christ. Lors de l'entretien du ressuscité avec les deux disciples, il commençait par Moïse et par tous les prophètes, et leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qu'ils regardent. Luc 24, verset 27. Relevons en passant les cas de Joseph, Moïse et David. Chacun d'eux a connu un chemin de souffrance qui les a fait descendre fort bas puis ils ont été élevés à la gloire. Joseph a délivré son peuple de la famine, Moïse de l'esclavage, David de l'ennemi. La parole de Dieu se plaît à relever divers incidents de leur vie et de leurs expériences qui, d'une façon voilée peut-être, mais claire pour le croyant, parlaient de celui qui devait venir. Nous considérerons d'abord quelques psaumes parlant des souffrances, puis d'autres des gloires. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Luc 24, verset 26. Première partie, les souffrances. Premièrement, psaume 40, versets 6 à 13, 16 à 17 et 1 à 3. Psaume 40, versets 6 à 13.
Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir. Tu m'as creusé des oreilles. Tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Je n'ai point scellé ta bonté et ta vérité dans la grande congrégation. Toi, Éternel, ne retiens pas loin de moi tes compassions. Que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Car des maux sans nombre m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les regarder. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. Qu'il te plaise, ô Éternel, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir.
Versets 16 et 17.
Que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent continuellement, magnifié soit l'Éternel. Et moi, je suis affligé et pauvre. Le Seigneur pense à moi, tu es mon secours, celui qui me délivre, mon Dieu, ne tarde pas.
Versets 1 à 3.
J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi, et a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront et craindront et se confieront en l'Éternel.
L'obéissance de Christ à la volonté du Père. Voici, je viens. Verset 7. Hébreux 10, verset 9.
Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second.
2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit
« Nous tous, contemplant ta face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit.
Le voile qui, pour les Juifs, demeurait sans être levé dans la lecture de l'Ancien Testament, et qui, jusqu'à aujourd'hui demeure, est levé pour le croyant. Nous tous pouvons contempler à face découverte, sans voile, les gloires variées du Seigneur, gloires personnelles, éternelles, gloires officielles que nous partagerons avec lui dans le règne, gloires morales tout le long de sa vie ici-bas. Et l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs pour qu'en le contemplant, nous soyons transformés. Ce psaume 40 nous présente le Seigneur Jésus venant dans ce monde, dans un chemin d'obéissance et de dévouement total, dans une parfaite soumission à la volonté de Dieu. Affligé et pauvre, il s'attendait à son Dieu.
Le psaume est pour ainsi dire encadré par cette attente patiente. Nous avons besoin de le voir dans ce chemin de pleine consécration. Petit A. Avant la fondation du monde. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, livre des conseils éternels de Dieu. Il contient le mystère de ce qui s'est passé dans le secret du ciel entre le Père et le Fils.
Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Jean 17, verset 24.
Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu.
Éternel dans son existence, distinct dans sa personne, divin dans son essence. Avant la fondation du monde, l'agneau a été préconnu, 1 Pierre 1, verset 20.
Préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous.
Et ce que Dieu a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, il les a élus en lui avant la fondation du monde. Éphésiens 1, versets 3 et 4.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Élus selon la préconnaissance de Dieu le Père,
1 Pierre 1, verset 2.
Élus selon la préconnaissance de Dieu le Père en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
N'allons pas plus loin dans ce mystère qui nous est révélé dans la mesure où notre intelligence limitée peut le saisir. Petit B. Dans le temps. En entrant dans le monde, il dit, rappelle Hébreux 10, verset 5.
C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps.
Notre psaume précise,
tu m'as creusé des oreilles. Voici, je viens. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir.
Psaume 40, versets 6 à 8. Jean 1, verset 14 nous dit,
la parole devint chair.
Jésus lui-même déclare,
moi, je procède de Dieu, et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
Jean 8, verset 42. Et plus tard,
je suis sorti d'auprès du Père, et je suis venu dans le monde.
Jean 16, verset 28. En Luc 1, verset 35, l'ange révèle à Marie,
l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu.
Au berger, il est annoncé,
aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Quel en était le signe?
Un petit enfant, emmailloté, est couché dans une crèche.
Luc 2, verset 12. Philippiens 2, verset 6 à 7 complétera le mystère.
Étant
subsistant
en forme de Dieu, il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes.
Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair.
1 Timothée 3, verset 16. Fils de Dieu, il l'était avant la fondation du monde. Comme on l'a dit, sa naissance sur la terre a correspondu à ce qu'il était auprès de Dieu toujours. Devenu véritablement homme, il est resté aussi véritablement Dieu, en une seule personne, malgré son abaissement. Ne scrutons pas plus loin le mystère. Personne ne connaît à fond le Fils. Si ce n'est le Père, Matthieu 11, verset 27.
Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler.
Petit C,
sur la terre.
Tu m'as creusé des oreilles. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir.
Versets 6 et 8. De même que les tables de la loi étaient dans l'arche,
ta loi est au-dedans de mes entrailles.
Que comportait cette obéissance et cette soumission parfaite? Annoncer la justice de Dieu, ne pas retenir ses lèvres, ne point cacher sa justice au-dedans de son cœur, parler de sa fidélité et de son salut, ne pas sceller sa bonté et sa vérité. Nous pouvons, dans l'Évangile, suivre de lieu en lieu celui qui présentait la grâce, qui usait de bonté et de compassion envers les malades, les pauvres, tous ceux qui venaient à lui, mais aussi, ne craignant pas de parler ouvertement à ceux qui rejetaient cette grâce, en particulier aux pharisiens et aux scribes, Luc 20, verset 3.
Et répondant, il leur dit, « Je vous demanderai, moi aussi, une chose, et dites-moi. »
Au début de son ministère, Jésus avait répété, « Bienheureux, bienheureux. » Matthieu 5, verset 3 à 12.
« Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera, et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. »
À la fin de sa course, pourquoi doit-il redire tant de fois « malheur, malheur, malheur » Matthieu 23, versets 13 à 29.
« Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour en faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, quiconque aura juré par le temple, ce n'est rien, mais quiconque aura juré par l'or du temple est obligé. Fous et aveugles. Car lequel est le plus grand, ou l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et quiconque aura juré par l'autel, ce n'est rien, mais quiconque aura juré par le don qui est dessus est obligé. Aveugle, car lequel est le plus grand, ou le don ou l'autel qui sanctifie le don? Celui donc qui jure par l'autel et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celle-là. Guides aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes.
Quand il doit adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ses miracles avait été faits, avec quelle tristesse il doit redire « malheur ». Et pourtant,
en ce temps-là, Jésus répondit et dit « Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. »
Il se soumet à l'opprobre, au rejet. Ses bras restent quand même ouverts.
« Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. »
Matthieu 11, verset 28. Qu'a-t-il devant lui ?
Des maux sans nombre m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint et je ne puis les regarder. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné, verset 12. Mes iniquités m'ont atteint, verset 12.
Voilà la perspective qu'il attend, sans être encore la croix. C'est en quelque sorte le bouc Azazel. Lévitique, chapitre 16, versets 8, 21 et 22, qui s'en va seul dans une terre inhabitée, chargée des péchés d'Israël. Lévitique 16, verset 8.
Et Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel.
Verset 21.
Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Ceux qui prennent plaisir à mon malheur,
verset 14, que de fois il a rencontré la contradiction des pécheurs contre lui-même, Hébreux 12, verset 3.
Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes.
Un refrain jalonne les évangiles. Contre. Les pharisiens tinrent conseil contre lui. Matthieu 12, verset 14.
Et les pharisiens étant sortis tinrent conseil contre lui pour le faire périr.
Matthieu 27, verset 1.
Or, quand le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir.
Ils cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus, Marc 14, versets 55 et 60.
Or, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelque témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point.
Verset 60.
Et le souverain sacrificateur, se levant devant tous, interrogea Jésus, disant, « Ne réponds-tu rien ? De quoi ceci témoigne-t-il contre toi ?
Contre lui toute la cohorte. Matthieu 27, verset 27.
Alors les soldats du gouverneur, ayant emmené Jésus au prétoire, assemblèrent contre lui toute la cohorte.
Crachés contre lui. Marc 14, verset 65.
Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui et à lui couvrir le visage et à lui donner des soufflets et à lui dire « Prophétise ». Et les huissiers le frappaient de leurs mains.
Marc 15, verset 19.
Et il lui frappait la tête avec un roseau et crachait contre lui. Se mettant à genoux, il lui rendait hommage.
À son Dieu, il demande la délivrance, le secours.
Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom.
Jean 12, versets 27 et 28. Quelques-uns pourtant répondront à son amour et rechercheront le Dieu Sauveur.
Que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent continuellement, magnifié soit l'Éternel. Verset 16. Tu m'as creusé des oreilles.
Hébreux 10, verset 5 dira.
Tu m'as formé un corps.
corps formé par Dieu lui-même, naissance virginale, corps humain, parfait comme tel, ayant eu faim, ayant eu soif, ayant été lassé du chemin. Mais corps qu'il a voulu prendre pour pouvoir, non devoir, mourir. Hébreux 2, verset 14.
Puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que, par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
À la veille du sacrifice suprême, quand il institue la scène, il dira à chacun des siens.
« Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
Il avait tout donné, sa gloire, son amour, sa compassion, ses forces, sa réputation, son honneur, et tant d'autres choses encore, que pouvait-il donner de plus, son corps? Il a, comme la brebis muette, subi les coups, les crachats, le fouet, la honte, et pour finir l'horrible supplice de la croix, sur laquelle il a traversé les heures de ténèbres, alors qu'il était fait péché pour nous. Deux hommes, qui n'avaient pas osé le suivre, se sont rencontrés au pied de la croix où pendait ce corps inanimé.
Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates. Il y avait dans le jardin un sépulcre neuf, ils mirent donc Jésus là.
Jean 19, versets 38 à 42.
Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d'ôter le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus, et Nicodème aussi, celui qui, au commencement, était allé de nuit à Jésus, vint, apportant une mixtion de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait, au lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne n'avait jamais été mis. Ils mirent donc Jésus là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche.
À la fin du psaume, le Christ rappelle ce qu'il a été,
affligé et pauvre,
deux expressions que nous sommes appelés à sonder dans la mesure où nous le pouvons, ayant peu connu d'affliction et de réelle pauvreté.
Bienheureux celui qui comprend le pauvre, au mauvais jour l'Éternel le délivrera, l'Éternel le gardera. Il sera rendu heureux sur la terre.
Psaume 41, versets 1 et 2. Jérémie exprimait dans ses lamentations
« Je suis l'homme qui ai vu l'affliction par la verge de sa fureur. »
Chapitre 3, verset 1.
« Mon œil se consume d'affliction. »
Psaume 88, verset 9.
« Souviens-toi de David et de toutes ses afflictions. »
Psaume 132, verset 1.
Souviens-toi de mon affliction, lamentation de Jérémie 3, verset 19.
Il a été le pauvre parce que volontairement il s'est fait pauvre, quoiqu'il eût de grands biens. Proverbe 13, verset 7.
Tel fait le riche et n'a rien du tout, et tel se fait pauvre et a de grands biens.
Il a connu la pauvreté au point d'être secouru par les femmes fidèles qui le suivaient. Luc 8, verset 3.
Marie, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Chuzas, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens.
Et lorsque les pharisiens et les hérodiens lui demandent s'il faut payer le tribut à César, il doit les prier d'apporter un denier, n'en ayant pas lui-même. Marc 12, verset 15.
Et lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. » Étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis.
2 Corinthiens 8, verset 9. Dernière parole du psaume 40.
Tu es mon secours et celui qui me délivre. Mon Dieu, ne tarde pas.
Il n'a pas été exaucé en ayant été sauvé de la mort, mais à travers la mort.
Durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
Hébreux 5, versets 7 à 8. Les trois premiers versets de notre psaume vont donner la réponse.
Petit D.
La réponse divine, versets 1 à 3.
J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi, et a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction,
la mort,
hors d'un bourbier fangeux,
le péché,
et il a mis mes pieds sur un roc,
ce roc glorieux de la résurrection.
Il s'est penché vers moi,
verset 1. Dieu, pour ainsi dire, voit son Fils remonter du puits. Il a entendu son cri, ce Fils qui a tant souffert est salué par Dieu, Hébreux 5, verset 10.
Étant salué par Dieu, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Assieds-toi à ma droite.
Psaume 110, verset 1. La mort ne lui a pas été épargnée, mais étant ressuscité,
il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Hébreux 5, verset 9.
Quand le sacrifice est consommé, il peut entonner
un cantique nouveau, la louange de notre Dieu.
Il n'est plus seul.
Plusieurs le verront et craindront et se confieront en l'Éternel.
Voir Jean 12, verset 24.
En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
En cette journée de la résurrection, premier jour de la semaine, jour de lumière, il s'emploiera à ramener, afin de les avoir autour de lui le soir même, ceux qui s'éloignaient, un Pierre qui l'avait renié, deux qui s'en allaient à Emmaüs, et d'autres encore. Quand il est apparu au milieu d'eux,
les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur.
Jean 20, verset 20. Aujourd'hui encore, au premier jour de la semaine, c'est notre privilège de nous réunir autour de lui, le centre, comme membre de son corps, et en participant au pain de la scène de réaliser
la communion du corps du Christ,
ce corps dans lequel il a tant souffert, mais aussi ce corps spirituel composé de tous ses rachetés, dont il est lui-même la tête. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17.
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain.
Encore une fois,
bienheureux celui qui comprend le pauvre.
Ce fut le privilège d'une Marie de Béthanie, Jean 12, verset 7.
Jésus donc dit, permets-lui d'avoir gardé ceci pour le jour de ma sépulture.
De Marie de Magdala, qui l'avait suivi et servi et fut la première à le voir ressuscité. Même des disciples au soir de la résurrection, eux qui n'avaient pas compris qu'il leur avait parlé d'avance de ses souffrances et cherché pour eux-mêmes la première place. Luc 22, versets 19 à 24.
Et ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même la coupe aussi après le souper en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Mais voici, la main de celui qui me livre est avec moi à table, et le Fils de l'homme s'en va bien selon ce qui est déterminé. Mais malheur à cet homme par qui il est livré. Et ils se mirent à s'entre-demander l'un à l'autre qui donc serait celui d'entre eux qui allait faire cela. Et il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand.
Sommes-nous meilleurs qu'eux lorsque nous participons aux pains ne distinguant pas le corps, 1 Corinthiens 11, verset 29, ou en ayant négligé de nous éprouver nous-mêmes,
car celui qui mange et qui boit mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps.
Ce jugé n'éloigne pas de la scène, mais amène à manger, verset 28, dans le sentiment de la grâce qui, à cause de l'œuvre de la croix, que nous rappelons en un tel moment, peut tout pardonner à ceux qui confessent leurs fautes. 1 Jean 1, verset 9. 1 Corinthiens 11, verset 28.
Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
1 Jean 1, verset 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.